France Inter, le 18-20.
Et toujours en direct de Washington, toujours au café Boys Boys and Poet, avec vos questions maintenant, c'est à vous de jouer après ces élections à mi-mandat. Maintenant qu'on a bien ingurgité tous ces résultats, eh bien allez-y, quelle politique pour Trump, quelle obstruction ou pas pour les démocrates, qu'est-ce qui va se passer pour 2020, qu'est-ce qui se passe pour nous en France, dans notre relation future aux États-Unis, à Donald Trump et en Europe également, comment le prendre décidément ce Donald Trump qui ne sort pas des faits de ces élections à mi-mandat, loin s'en faut. Ça se passe évidemment comme d'habitude au 01 45 24 7000. C'est à vous de jouer et le premier, c'est vous, Alain. Bonsoir, bienvenue à Washington.
France Inter, le téléphone sonne, édition spéciale élection américaine de mi-mandat en direct de Washington.
C'est magique, Alain, on vous parle depuis Washington. Soyez le bienvenu. Merci. Et votre question, on l'écoute.
Oui, alors ma question, c'est, je voudrais avoir une précision. En quoi consiste exactement aux États-Unis le rôle de la Chambre des représentants et le rôle du Sénat? C'est pas forcément évident pour des Français, enfin pour moi du moins. Et est-ce qu'une assemblée peut contrebalancer l'autre ou bien si elles ont toutes les deux, les mêmes pouvoirs?
Eh ben, écoutez, bonne question, Alain, parce qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui ont fait souvent des comparaisons un peu trop hâtives en fait entre nos systèmes et le système américain. Pour vous répondre et pour participer à ce téléphone sonne jusqu'à 20h, Célia Belin est restée. Rebonsoir, Célia. Bonsoir. Vous êtes toujours chercheuse invitée à la Brookings Institute. Jeff Lightfoot nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. Chercheur au think tank Atlantic Council et Grégory Phillips qui reste accroché à nous, reste là également. On commence avec vous, Célia Belin. À quoi sert la Chambre des représentants, à quoi sert les Sénats aux États-Unis?
Alors, déjà, ils n'ont pas le même nombre d'élus. On a 435 élus à la Chambre des représentants et une centaine et 100 sénateurs, deux par État.
Donc quelle que soit la taille de l'État,
donc ils représentent en réalité la géographie des États-Unis, la ruralité, puisqu'il y a deux pour la Californie, mais aussi deux pour le Delaware ou deux pour l'Alaska. Ils n'ont pas les mêmes prérogatives, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Une des grandes différences, par exemple, c'est que le Sénat a le pouvoir de confirmer les nominations du président américain. Donc, en fait, un pouvoir très fort dans l'orientation de sa politique. Simplement, les deux sont deux organes législatifs qui travaillent ensemble pour faire émerger les lois. Une des grandes différences aussi, c'est que les représentants sont élus tous les deux ans, tandis que les sénateurs siègent pour 6 ans. Du coup, ils n'ont pas la même dynamique politique et on trouve souvent les radicalités politiques plutôt du côté de la Chambre que du côté du Sénat.
Et c'est vrai que 435 personnes à renouveler tous les 10 ans, ça veut dire, on dit souvent dans le système américain, Grégory, vous n'allez pas me contredire, que on est en campagne permanente en fait quand on se fait réélire tous les 2 ans. C'est peut-être aussi ce qui rend le système un peu vicié à certains égards en fait.
Oui, c'est sûr, hein, ça revient très rapidement ces élections. Les prochaines, c'est en 2020 et il est clair que dès aujourd'hui, on assistait tout à l'heure à la conférence de presse de Trump, tout le monde ne pense plus qu'à la prochaine échéance qui arrivera très rapidement. Une précision aussi sur la Chambre des représentants. Vous me dites, Célia, si je me trompe, mais elle a aussi ses commissions d'enquête, la possibilité de lancer des enquêtes contre le président. Et évidemment, c'est très important maintenant que la majorité revient aux démocrates.
Et alors d'ailleurs, quand une enquête est lancée, pardon, je vais suivre sur la question de Grégory, si demain les démocrates décident de lancer une enquête, par exemple, sur la feuille d'impôt, d'imposer à Trump de donner sa feuille d'impôt, puisque c'est beaucoup dans l'air, qu'est-ce qui peut empêcher qu'il le fasse? En gros, le garde-fou devant la Chambre, c'est quoi?
Alors, juste pour revenir un moment sur le point de Grégory, donc en fait, à la Chambre et au Sénat, il y a des séries de commissions. Il y a la commission budgétaire, la commission judiciaire, la commission sur l'éducation, la commission sur la politique étrangère. Et toutes ces commissions siègent de manière permanente et donc ne sont pas uniquement là pour faire des enquêtes, ni même des enquêtes sur Donald Trump, mais pour travailler, faire en amont le travail législatif et préparer le travail en plénière. Et donc là, évidemment, ce sont les commissions sur le renseignement ou les commissions judiciaires de la Chambre des représentants qui, en changeant de couleur et en changeant de président, du coup, vont peut-être réouvrir des enquêtes.
Et alors, est-ce que une fois qu'une enquête est ouverte, le garde-fou, c'est quoi? Il y en a un
pour Donald Trump. Non, il n'y en a pas vraiment, puisque normalement, ils peuvent interroger, ils peuvent auditionner qui ils veulent et qu'il y a une obligation de dire la vérité. Le simple garde-fou, c'est que ces enquêtes ne pourront pas être suivies d'effet au Sénat, où là, il y a un garde-fou politique.
Et Jeff Lightfoot, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que tout ce qui est politique étrangère de Trump ne passe absolument pas par la Chambre. Donc là-dessus, au fond, rien ne change, ou pas?
Oui, je crois que la politique étrangère de M. Trump va continuer dans la même ligne que nous avons suivie dans les derniers mois. Peut-être peut-être on pourra voir un départ de Monsieur Matisse, qui est il y a beaucoup de rumeurs là-dessus ici, et avec
beaucoup de rumeurs sur un grand chambardement d'ailleurs autour de Trump.
Exactement. Mmh. Il faut rappeler que Monsieur Matisse est le centriste de cette administration. On a remplacé le conseiller à la sécurité nationale avec un faucon en Monsieur Bolton, un nouveau secrétaire d'État Monsieur Pompeo qui est aussi très proche à Monsieur Trump. Et donc avec le Sénat aux mains des Républicains, nous pouvons assurer grosso modo que un nouveau nominé pourrait être confirmé par le Sénat, qui a cette prérogative. Il faut ajouter aussi à la politique intérieure, Monsieur Trump va pouvoir continuer à confirmer des juges pour continuer la transformation du système judiciaire aux États-Unis, qui est une victoire stratégique pour lui, ce qui s'est passé hier.
Et on a bien vu effectivement que ça a été l'une de ses grandes victoires stratégiques de ces derniers mois, les confirmations, notamment celle du juge Kavanaugh.
Les deux juges conservateurs, Gorsuch un peu plus tôt, puis Kavanaugh. Mmh. Et moi, j'ai été surpris en suivant la campagne, en allant dans différents États, notamment dans le Michigan, et de parler de Kavanaugh aux gens. Mmh. Et en fait, j'étais surpris que ce soit aussi important pour eux. En France, on a un peu l'impression, voilà, la nomination d'un juge à la Cour suprême, c'est quelque chose d'assez lointain qui se passe à Washington. Non, pas du tout. Quand vous en parlez avec les démocrates, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand vous en parlez avec les supporters de Trump, c'est aussi quasiment une des premières choses dont ils vous parlent, en disant, regardez, il a réussi à nommer un conservateur.
Oui, je dirais, plus que les systèmes législatifs est bloqué, plus que les juges sont plus importants pour la transformation du pays. Et donc, et Trump a pu dire à son électorat, j'ai transformé le pays dans votre direction, j'ai tenu à mes promesses.
Et peut-être,
et c'est très important.
Et peut-être l'un des reproches qu'on fait toujours au système américain, au fond, un système de juges plus qu'un système d'élus, Célia Belin, c'est ce qu'on entend beaucoup.
Oui, même si en fait le Congrès a été très fort et il joue souvent son rôle de contrepoids à la présidence. Et évidemment, c'est un contrepoids qui n'est pas dans la même temporalité que la présidence, qui va prendre des décisions exécutives beaucoup plus rapides. Mais simplement avec son pouvoir de contrôle, son pouvoir d'audition, le Congrès, lui, peut mettre des bâtons dans les roues au président de manière substantielle.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir madame.
Et bienvenue à Washington Thierry, on vous écoute.
J'ai vécu 12 ans à Chicago et à Houston. Ma question est claire. Monsieur Trump détient dans sa main le Sénat et la Cour suprême, les deux institutions américaines les plus puissantes. Est-ce que ce n'est pas une voie royale à son élection en 2020?
Eh ben voilà, comme ça, comme vous dites, c'est bien clair, Thierry. Est-ce que la voie royale est ouverte, tiens, Jeff Lightfoot?
Je dirais premièrement félicitations, car je suis né à Chicago.
Bravo. Mais je dirais bravo Thierry.
Oui, bravo Thierry. Non, je crois que l'élection de 2020 se jouera en 2 ans. Il y a beaucoup qui peut se dérouler en 2 ans. L'économie va très très bien à ce moment-là. Je crois qu'en 2 ans, il y aura presque certainement un certain recul de l'économie. Mm-hmm. Ça dépend de la stratégie qui est poursuivie par Monsieur Trump. Et je crois aussi que la Chambre des représentants peut émerder un peu le progrès de l'administration. Il va trouver des résultats concrets un peu difficiles à trouver, mais je ne peux pas dire que, en raison du contrôle du Sénat et du Cour suprême, que 2020 est garanti. Mais ce qu'on peut dire, c'est que M. Trump est un adversaire très formidable, très fort, et qui sera très difficile à battre en 2020.
Ce qui est garanti, c'est qu'il se présente, Célia Belin. On a cru à un moment, au début de cette présidence, on s'est dit, si ça se trouve, les Républicains vont essayer de coller quelqu'un derrière Trump, parce que vraiment, c'est très compliqué. Là, il les a dans la main, les Républicains, Donald Trump, en tout cas au moment où on se parle.
Oui, la première année de Donald Trump, on a cru qu'il y aurait une résistance à Trump au sein du Parti républicain. Et puis avec la disparition réelle ou politique de beaucoup de ses adversaires, dont par exemple John McCain au Sénat notamment, on voit de plus en plus un parti républicain qui est devenu le parti de Donald Trump, qui est devenu vraiment, qui le soutient d'ailleurs.
Mais à son corps défendant, Célia Belin, ou pas? Puisque de toute façon, il gagne, donc on le défend. Est-ce qu'au fond, d'eux, ils se disent, mais quelle plaie? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont ralliés réellement, y compris les Républicains de Washington?
Alors oui, y compris les Républicains de Washington. Moi, je suis très surprise depuis un an que je suis ici de parler avec des Républicains qui, encore il y a un an, étaient par exemple des Républicains Never Trumpers, ces Républicains qui ont dit qu'ils ne voteraient jamais pour Donald Trump, mais qui restaient fondamentalement Républicains et qui se pinçaient le nez et qui étaient écœurés par ce président et qui, franchement, ont changé entièrement de discours. Ils continuent de dire, voilà, j'aime pas ses excès, évidemment, je ferai pas la même chose. mais au fond, il fait des choses bien pour notre pays. C'est un peu dans la lignée, vous savez, de cette tribune anonyme qu'il y a eu dans le New York Times, ouais. Qui disait, au fond, le message de cette tribune, c'était « Vous inquiétez pas, nous, à l'intérieur, on fait tout ce qu'il faut faire, on fait les baisses d'impôts, et le personnage, on le contrôle. » Et donc, en réalité, je pense que c'est un fantasme, personne ne contrôle le personnage, mais... En fait, tout le monde s'accommode du personnage. Il y a un vrai appui maintenant parce que sur le plan politique, il délivre.
Jeff Lightfoot, est-ce que ça veut dire qu'au fond et finalement, il est entouré correctement, ce Donald Trump, en tout cas pour ce qui est des matières comme l'économie, etc. Est-ce qu'au fond, bien conseillé, bien entouré, le président Trump
bien conseillé, c'est une bonne question. Évidemment, il y a beaucoup de républicains traditionnels en matière de politique extérieure, par exemple, qui sont restés dehors de l'administration car ils se sont opposés au président d'une manière publique. J'imagine si Donald Trump est réélu en 2020, beaucoup de ces républicains pourraient revenir à le supporter, car si ces gens qui ont renoncé à M. Trump en 2016, le soutien en 2020, peut-être ils seront accueillis. Mm-hmm. Nous voyons aujourd'hui au Pentagone que certains acteurs assez haut niveau qui quittent l'administration, et la grande question c'est qui vont les remplacer. Déjà, 2000 après l'élection de M. Trump, il y a pas assez de gens pour remplacer des positions vides à la Maison-Blanche et dans l'administration.
Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir Anne.
Et bienvenue à Washington, Vincent. Allez-y, on vous écoute.
Merci. Donc ma question est la suivante. On a vu l'émergence d'un certain nombre de candidats démocrates qui se revendiquaient d'une forme de socialisme à l'américaine, ou de candidats qui étaient proches de Bernie Sanders, et dont certains ont été élus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, et donc un avantage pour Trump, d'avoir en 2020 un parti démocrate qui sera coupé en deux entre les anciens, mode Hillary Clinton, et les nouveaux, plus progressistes, plus à gauche, entre guillemets, et qui favoriserait donc la réélection de Trump à la présidentielle?
Merci beaucoup pour votre question, Vincent. Célia Belin, c'est vrai qu'on a l'impression que les démocrates n'ont pas su choisir encore. Faut-il être un centriste à la Clinton, on va le résumer comme ça, plus à gauche à la Bernie Sanders?
En fait, je trouve que la droite américaine exagère vraiment dans sa critique les divisions de la gauche américaine. Je pense que ça les sert bien parce qu'ils ont vécu eux-mêmes le phénomène du Tea Party et d'une radicalisation d'une partie de leur base et qui les a profondément divisés avant maintenant une union sous Donald Trump. Mm-hmm. Et je pense que quelque part, ils espéraient que ce soit un peu le désert que traversent les démocrates pour les prochaines années. C'est qu'en partie vrai, on voit que Bernie Sanders, pendant la campagne, quand il a perdu face à Hillary Clinton, s'est rallié à Hillary Clinton. Donc évidemment, il y a une partie de ses supporters déçus qui n'ont pas voté ou éventuellement qui ont rallié Donald Trump. Mais il reste que les personnalités qui ont émergé ont quand même des discours d'unification du camp démocrate et qu'on n'entend pas les mêmes discours de division qu'on pouvait entendre à droite, de haine profonde au sein de la droite comme il y avait pu avoir entre le Tea Party et l'establishment. On retrouve pas ça. Il y a juste des approches légèrement différentes et à mon avis, ce sera tranché par le candidat qui émergera. Ce sera tranché par la personnalité et pas par une décision préalable du corps électoral.
Et Grégory Phillips, pour prolonger ce que dit Célia Belin, on a bien vu pendant cette campagne, on a cette jeune femme, Alexandria Ocasio-Cortez, qui, elle, se revendique très à gauche. Mais si on regarde la campagne de Beto O'Rourke, par exemple, c'était plutôt une campagne centriste, au fond.
Oui, mais Alexandria Ocasio-Cortez arrive au Congrès. Elle a été élue alors à New York, dans cette bulle new-yorkaise,
exactement.
Évidemment. Elle a été élue. Néanmoins, va quand même falloir que, par exemple, cette jeune femme de 29 ans, très à gauche, qualifiée de socialiste et honnie par les médias conservateurs, travaille par exemple avec quelqu'un comme Nancy Pelosi. Donc il va falloir qu'ils travaillent ensemble. Je crois qu'Ocasio-Cortez a déjà laissé entendre qu'elle était favorable à lancer une procédure de destitution contre le président, alors que le Parti démocrate ne veut pas y aller parce qu'on sait que ça n'a aucune chance d'aboutir. Donc il va quand même falloir que ces gens-là parviennent à s'accorder au sein de l'Assemblée.
Je crois que ce qui est intéressant à cela, c'est à court terme, je crois que la question c'est est-ce que les démocrates vont poursuivre la ligne plus à la gauche ou plus au centre, mais à moyen et à long terme, je crois que le futur du Parti républicain est vraiment en jeu. Est-ce que les républicains peuvent gagner des élections au futur en 10, 30, 20 et 30 ans avec une base électorale très limitée, avec très à la droite, qui cible les blancs mais qui ignore les minorités, avec une démographie qui change. Donc, je crois que le futur à court terme est en jeu pour les démocrates, mais en long terme, je crois que je me méfie du stratégie des républicains.
Hein. Dont on avait beaucoup dit lors des élections précédentes qu'il fallait qu'il se rapproche des minorités, notamment des hispaniques, Célia Belin. Là, par exemple, est-ce qu'on a déjà des chiffres? C'est dommage, peut-être que c'est un peu tôt de savoir comment les minorités ont voté. En fait, c'est trop tôt pour savoir ça, j'imagine.
Je crois que c'est trop tôt. En tout cas, je n'ai pas les chiffres. Oui, après la défaite de 2012, donc de Mitt Romney face à Barack Obama, il y avait vraiment eu une réflexion menée au sein du Parti républicain, avec un rapport qui était sorti qui pointait du doigt les problématiques démographiques profondes du Parti républicain. Et donc, sur la base de ça, les campagnes de 2016 pour les primaires avaient mis en avant Marco Rubio, qui pourrait plaire aux latinos,
ou alors sénateur en Floride.
Sénateur de Floride, Jeb Bush, qui était
ancien gouverneur de Floride.
Ancien gouverneur de Floride, voilà, mais qui parlait espagnol à des racines de par sa famille.
Sa belle famille.
Sa belle famille, et puis aussi toute la famille Bush parle espagnol, d'accord, connaît bien les latinos américains. Donc il y avait et puis en fait on voit que une stratégie totalement inverse de Donald Trump a fonctionné. Donc moi je suis pas du tout persuadée qu'il soit prêt à remettre quoi que ce soit en cause, surtout que par exemple on dit beaucoup que les minorités vont systématiquement voter démocrate, alors que quand on regarde les latino-américains par exemple sont tentés par le conservatisme, sont plutôt des conservateurs pour ce qui est de leurs valeurs. Et donc, si simplement peut-être le Parti républicain ajustait ses positions sur l'immigration, il s'agit même pas de devenir complètement pro-immigration, puisque les latinos déjà dans le pays ne le sont pas, mais simplement un minimum de détente par rapport à la politique de Donald Trump, ça pourrait peut-être fonctionner.
Marc, bonsoir.
Bonsoir, Fabienne Sentes. Merci
de prendre
mon appel. Bonjour à vos invités. Alors, je précise tout de suite que si j'étais un citoyen américain, je ne serais pas un électeur de Monsieur Trump. Hein. Mais je lui reconnais un mérite. Même s'il ne l'a pas fait pour de bonnes raisons, il s'est attaqué au sacro-saint libre-échange. Et c'est, il me semble, peut-être en tout cas, la clé de son succès dans les classes moyennes et populaires déclassées. Voilà. Car moins de libre-échange, c'est moins d'échange. Moins d'échanges, c'est moins de transport inutile de marchandises. Et tout ça, c'est moins de CO2 aussi. Moins de libre-échange, c'est aussi moins de dumping social et écologique. Plus généralement, moi je voudrais quand même que les analystes qui traitent du sujet, ni voyant qu'une fierté retrouvée de produire américain, voire même du nationalisme avec une pointe de mépris, je voudrais qu'on traite la question de la remise en cause du libre-échange sous un autre angle. Et je me pose la question aussi sur la ligne du prochain candidat démocrate. Ne devrait-il pas prendre en compte cette attente de la part de l'électorat populaire qui fait la masse qui permet à Donald Trump d'être élu, très démagogiquement d'ailleurs. En tout cas, l'angle écologique et social me semble intéressant pour traiter la question du libre-échange. Je voudrais avoir l'avis de vos invités.
Eh ben, nos invités vous ont entendu. Jeff Lightfoot, c'est pour vous le début de cette question de Marc. Au fond, en creux, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont audibles au-delà de l'électorat de Trump dans ce qu'il dit. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi?
Je crois que Marc a raison d'une certaine manière, car il a parlé à une grande partie de l'électorat qui a été ignoré par le Parti républicain et qui a été ignoré certainement par les démocrates. Et nous voyons dans ce pays, comme en France, un pays qui est profondément divisé par ici les côtes est, la côte est et la côte ouest, et le grand centre du pays qui est beaucoup plus conservateur, en particulier culturellement. Je crois que ce qui attire ses supporters à Monsieur Trump, c'est avant tout des questions culturelles. Et Monsieur Trump est le maître à prendre des questions culturelles comme les armes à feu, comme les questions d'immigration, etc., et à rallier son électorat autour de lui. Mais il a parlé avec des questions culturelles à son électorat de base, mais aussi utilisé ce rejet de libre-échange, comme Marc a dit, pour les motiver, mais il a aussi imposé une certaine économie très traditionnelle républicaine avec des impôts très très bas. Monsieur Trump n'est pas du tout un environnementaliste.
Donc, alors oui, ça, on y reviendra là-dessus. Effectivement, de ce point de vue-là, il y aurait sûrement beaucoup à dire. Célia Belin, est-ce qu'on a quand même beaucoup caricaturé au fond quand on a un peu à l'emporte-pièce expliqué que l'électorat de Trump ici c'était le blanc déclassé, voilà, mâle de préférence d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, on l'a caricaturé tellement qu'on a dit qu'il était, c'était le blanc ouvrier pauvre. Et ce qui n'est pas vrai, en fait, quand on regarde, les riches votent Trump et les pauvres votent démocrates. En l'occurrence, Clinton en 2016. Quand on regarde l'ensemble des chiffres démographiques. Mais c'est pas la question de savoir si c'est son électorat majoritaire ou si c'est ça qu'il est à perdre. C'est juste, c'est l'électorat qui, lui, a été saisi, qu'il a été capable de mobiliser, qui était en effet un électorat complètement oublié, complètement délaissé, qui ne votait pas. Et c'est cet électorat-là qu'il a réussi à saisir, un électorat qui est venu s'ajouter, évidemment, au big business qui votait traditionnellement républicain pour des questions économiques. Et pour revenir sur la question du libre-échange, c'est une problématique qui touche tous les Américains. Il faut se souvenir que pendant 2016, Bernie Sanders avait déjà remis en cause le libre-échange et ça avait forcé Hillary Clinton pendant la campagne des primaires
à virer
à gauche sur ce sujet-là. Et pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu un tel accroissement des inégalités après la grande récession et au moment de la reprise économique que et avec une compétition qui s'est accrue aussi vis-à-vis de la Chine, avec une perte des emplois manufacturiers très forte, notamment dans le Midwest américain, que les Américains ont compris que cette globalisation, cette mondialisation débridée les desservait et c'est pour ça qu'ils ont commencé à développer ce dialogue sur l'injustice de cette mondialisation.
Alors vous me diriez, les deux sont évidemment impliqués, mais on a un peu l'impression en vous écoutant tous les deux qu'au fond, effectivement, ce qui est important, c'est la culture, c'est l'identité, c'est tout ça. Et même l'économie, finalement, arrive en second plan. Quand on entend, quand on se promène ici et qu'on entend des gens dire, oh oui, mais c'est bien, il a ramené l'économie à un meilleur niveau, ce qui est vrai quand on regarde les chiffres, mais ils ne parlent pas forcément de leur situation personnelle, au fond, quand ils disent ça. Donc c'est finalement quelque chose de très empirique pour, au fond, revenir à ce que vous disiez, peut-être, Jeff, identité et culture américaine, en fait.
Oui, si vous regardez ces grands rendez-vous de M. Trump et ses supporters, lorsqu'ils discutent le football américain, par exemple, qui est le sport le plus populaire ici, et les joueurs ne sont pas debout pour l'hymne national, et c'est sur ces points-là que M. Trump... ses supporters, c'est presque comme une équipe de football, hein. L'Olympique Marseille ou FC Lyon, ses supporters sont très attachés à lui et ils sont attachés à eux parce qu'ils s'opposent à l'élite culturelle, à l'élite économique, à l'élite politique qui est identifiée très à la gauche. Et donc, je crois que c'est pourquoi les supporters de Trump sont si attachés à eux, car c'est plus que les chiffres, l'économie, c'est plutôt culturel.
Grégory, pour ajouter quelque chose.
Et de la même manière, le rapport aux médias et aux fake news, cette élite médiatique de Washington, New York ou Los Angeles, la conférence de presse de Trump tout à l'heure a été particulièrement houleuse. Il a une nouvelle fois littéralement insulté Jim Acosta de CNN. Et chez ses supporters, ça marche. C'est-à-dire que quand il demande dans un meeting à une foule de 5, 10 ou 15 000 personnes d'insulter la presse qui se trouve derrière, ça marche et ça parle vraiment aux gens. Les gens sont vraiment furieux contre les médias. Et cette colère est attisée par Trump.
Célia Belin ?
Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un sentiment d'humiliation d'une certaine partie de l'Amérique, une Amérique qui se fait humilier par les médias qui les regardent haut depuis les côtes,
les déplorables, comme disait Hillary Clinton pendant la campagne.
Les rednecks qui sont les campagnards, on va dire, ou les bouseux, je ne sais pas quels sont les termes qu'on pourrait employer, qu'ils aiment, c'est la manière dont ils aiment s'auto-décrire parce qu'en fait, ça leur permet de revendiquer une certaine identité. Et de fait, c'était quand même un peu les oubliés de la politique américaine. Et donc là, Donald Trump leur rend de la dignité. Et ça, c'est extrêmement important au cœur du message de Donald Trump. Paradoxalement, quelqu'un qui divise autant sa population, qui a un message aussi agressif, rend de la dignité à ce genre-là.
On se souvient d'une phrase de Barack Obama qui disait « Ils ont la Bible dans une main et le flingue dans l'autre » qui avait été, je ne sais pas si vous en souvenez, Jeff Lightfoot, extrêmement mal perçu par toute cette Amérique-là à ce moment-là.
Oui, exactement. Il y avait parfois cette tendance à dire que oui, la démographie du pays change, les minorités seront majoritaire et c'est fini pour vous. Et Monsieur Trump dit non, non, c'est pas fini pour vous. Nous sommes ensemble en tête. Et allez, je crois que c'est pourquoi il se rallie autour de lui.
On a un peu dérivé du sujet économique dans lequel Jacques veut nous ramener. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir à tous. Je m'interrogeais sur le fait qu'aussi fantaisiste ou outrancière soit la politique de Trump, sa crédibilité, elle semble se jouer quand même sur les places boursières internationales, parce que les valeurs US, elles ont quand même pas cessé de croître, et ce, depuis son élection, ce que je trouve assez paradoxal, voire schizophrénique. Je trouve que quelqu'un de mal perçu dans tous les domaines, mais quand même un cheval sur lequel on mise depuis son élection, malgré tout. J'aimerais qu'on m'explique, hein, qu'on m'éclaire un peu sur ce fait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jacques. Et c'est vrai, Célia Belin, on a dit pique-pendre de Donald Trump dans toutes les capitales mondiales à un moment, mais la bourse, elle, droit dans sa ligne, continue à progresser, en fait.
Oui, c'est
même son marqueur à lui, à Trump.
C'est le cynisme boursier.
Exactement.
Je pense que ce qui est étonnant, c'est que les bourses aient compris, en fait, avant le Parti républicain et avant même les experts, que Donald Trump allait finalement faire en politique économique une politique très favorable aux entreprises, puisqu'il fait de la dérégulation. Il avait annoncé pendant sa campagne qu'il sortirait de l'accord de Paris sur le changement climatique. Il l'a fait. Donc il n'y a plus de contraintes. Il n'y a pas de contraintes environnementales. Il y a de moins en moins de contraintes sociales. Il y a des impôts
qui ont baissé,
etc. Pour les plus riches et puis pour les entreprises. Et donc finalement, et puis on voit maintenant, on est au plein emploi. On est à 3,7 % de chômage ou quelque chose comme ça. Et donc, les bourses ont compris très vite qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Il y a maintenant des inquiétudes, à savoir, ça fait déjà 10 ans qu'on est en reprise économique. Est-ce que ce rythme-là peut tenir avec l'endettement qui est à un niveau très élevé, etc. Mais la confiance est là et elle reste là pour le moment.
Et puis pour le monde de l'entreprise, il y a eu cette réforme fiscale assez importante quand même, qui est quand même une énorme réforme fiscale qui est un des succès de Trump.
Est-ce qu'on peut le dire comme ça, le seul vrai grand succès, c'est la réforme fiscale.
En tout cas, c'est le chantier qu'il a réussi à mener jusqu'au bout finalement assez rapidement. Et quand dans les meetings ces dernières semaines, il y avait des banderoles promesses tenues, ça, c'est une des promesses qui est tenue, incontestablement.
Il est une très bonne. Je crois qu'il est certainement une très bonne chose que l'économie soit forte, mais je m'inquiète un peu que M. Trump fait flamber les déficits qui étaient très importants pour les républicains, comme M. Obama, qui était le président, et maintenant ne sont pas très intéressants, qu'ils sont en pouvoir. Et je craigne que en 2 ans, 4 ans, nous allons voir une chute économique parce que c'est un peu le sugar rush basé sur la dette et la consommation et pas sur l'investissement.
Le sugar rush, l'envie de sucre, en gros, de sucreries et de bonbons.
L'adrénaline du sucre.
Vous avez des expressions, vous, en anglais, qui sont formidables. Tiens, vous faisiez allusion, Célia Belin, aux accords de Paris. Je voudrais qu'on écoute Hélène ou Elena, je ne sais plus. Hélène, bonsoir. Elena.
Oui, bonsoir, c'est Elena. Oui, je suis contente des interventions des précédents personnages, car je m'apprête à vous poser des questions suivantes. Ça concerne surtout les médias US et français et les démocrates aux États-Unis. Les questions climatiques, de réchauffement climatique, de pic pétrolier, de collapsologie ne sont pas abordées dans la campagne qui vient d'avoir lieu. Pourquoi ne parle-t-on pas dans les médias français de comment les médias américains abordent ces sujets ou les abordent-ils tout court? Est-ce que les médias américains en parlent? Et que font-ils des positions des intellectuels tels que Noam Chomsky ou Naomi Klein, par exemple? Est-ce que les démocrates les sollicitent? Si quelqu'un pouvait me répondre, je serais bien contente. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup pour votre question, Elena. Et c'est Célia Belin qui va vous répondre. D'abord, y compris dans la campagne d'ailleurs, est-ce que l'environnement a été intégralement absent de cette campagne ou pas ?
En fait, il est localement extrêmement présent et sur la campagne nationale un peu absent, dans le sens où c'est un sujet. En fait, c'est un des sujets de politique étrangère les plus clivants aux États-Unis. La question du rapport à la lutte sur le changement climatique. On voit que démocrates et républicains sont finalement pas si en désaccord que ça sur le nucléaire iranien. Ils sont pas si en désaccord que ça sur ce qu'il faudrait faire avec la Corée du Nord. Parce qu'au fond, il y a personne à une recette meilleure que l'autre sur la question du changement climatique, il y a une différence, je crois, de 60 points entre ce que pensent les démocrates, qui pensent que c'est un sujet absolument prioritaire et crucial, et ce que pensent les républicains. Et du coup, les médias démocrates de gauche vont avoir tendance à en parler et à s'insurger du fait que, par exemple, l'Agence de protection de l'environnement est complètement démantelée maintenant par l'administration Trump, le fait qu'il n'y a aucun contrôle sur les pétroliers, qu'on rouvre des tas d'espaces à l'exploration pétrolière. Et donc, c'est à la fois le sujet climatique, le sujet environnemental, le sujet de la biodiversité qui les préoccupe énormément et sur lesquels beaucoup d'élus, par exemple en Californie, se font élire sur la base de ces politiques-là. Mais sur le sujet national, c'est tellement verrouillé, il y a tellement une fin de non-recevoir du Parti républicain qu'il ne se passe rien.
Grégory Philippe,
en revanche, ce que vous disiez, c'est que localement, quand par exemple on va parler aux gens de Pennsylvanie et qu'on parle du charbon propre, des mines de charbon, de la réouverture des mines de charbon, c'est le sujet numéro un pour ces gens-là.
Oui, c'est l'énergie qui est le sujet numéro un, et le charbon en particulier. Donc l'énergie qui soit apporte des good jobs, des bons emplois, ça c'était un des sujets de campagne. Et donc tout le monde fantasme sur l'idée d'un charbon propre, puisque ce serait idéal, le retour des good jobs, et en même temps on ne pollue pas trop la planète. Et donc le sujet énergétique est présent. Mais ce qui n'est plus discuté, c'est de savoir si il faut un retour dans l'accord de Paris. Les démocrates certainement le mettront au programme pour 2020. En attendant, il va pas se passer grand chose.
Et au milieu de la question d'Elena, il y avait aussi ce qu'en dit la presse. Et effectivement, comme vous le soulignez, localement ça a du sens, pas forcément nationalement. Mais donc ça veut dire que les grands médias, par exemple, aujourd'hui ont laissé tomber ces sujets-là. Est-ce qu'il y a encore vraiment des pages autour de ça ou pas du tout? Ou est-ce qu'on laisse effectivement aux médias locaux au fond?
Non, il y a encore le New York Times, le Washington Post, les grands médias que la droite appelle mainstream ou fake news s'intéressent vraiment à la question du changement climatique. Ils vont couvrir les rapports du GIEC. Il y a un point de vue extrêmement critique. Ce que je dis juste, c'est que c'est évidemment pas ça a pas eu je remarque qu'au fond, les démocrates n'en ont pas parlé tant que ça par rapport à la réforme du système de santé, par rapport à d'autres questions, même gun control, le contrôle des armes à feu qui était discuté en Floride. Au fond, peut-être que c'est parce que c'est tellement divisé qu'ils se disent juste qu'il faut attendre une reprise du pouvoir pour remettre ça sur la table.
Puisqu'on parlait de l'accord de Paris, Jay Flightfoot, on se souvient de cette période où Emmanuel Macron avait tenté de dissuader Donald Trump de sortir de l'accord de Paris. Il l'a pas fait qu'avec ça. D'ailleurs, il l'a fait aussi avec le nucléaire iranien, et ça n'a pas marché. Pour autant, Donald Trump est à Paris dans deux jours. Qu'est-ce qu'elle dit, selon vous, cette relation-là, et surtout comment elle évolue maintenant dans les deux ans qui viennent?
Je crois que nous sommes dans une deuxième phase de la relation, comme Célia avait écrit dans un rapport très récemment. La première phase était une tentative de séduction, dont ces deux hommes avaient des poignées de main très fortes, une bonne relation avec le 4 juillet à Paris et ici.
Mélange
à Washington.
De séduction et de virilité, plus ou moins bien placée, pour l'un comme pour l'autre, honnêtement.
Oui, un peu. Et clairement, M. Macron a cherché à utiliser sa capacité en anglais, son capacité comme homme d'affaires à parler à M. Trump et à le dissuader de ses convictions unilatérales. Et bien évidemment, il a échoué. Et la grande question maintenant pour M. Macron, est-ce qu'il peut convaincre l'Europe à le suivre? Il parlait tout à l'heure d'une armée européenne, l'autonomie stratégique. Est-ce qu'il peut convaincre une Europe très divisée, divisée à l'interne, mais divisée par des forces extérieures, par la Russie, par les États-Unis, par l'investissement chinois? Est-ce qu'il peut convaincre l'Europe à devenir plus autonome des États-Unis d'une certaine manière ou pas? Et je crois que c'est le grand enjeu pour M. Macron.
Mais est-ce que Donald Trump cherche à affaiblir l'Europe? Au fond, est-ce que en creux, dans l'idée de Donald Trump, il y a ça ou pas? Quand il dit, par exemple, aux Anglais, vous avez bien fait de partir, quand il flatte un certain nombre de pays qui sont un peu entre deux eaux, quand il parle à Salvini, quand son ancien grand conseiller, qui est Steve Bannon, est installé aujourd'hui à Bruxelles, est-ce qu'au fond, ça veut dire que pour lui, de toute façon, chercher à affaiblir l'Europe, c'est plutôt une bonne chose et ça peut l'aider dans ses intérêts?
Au tout début de l'administration, je crois que c'était une question ouverte si M. Trump allait chercher à encourager d'autres pays à suivre le Royaume-Uni, à quitter l'Union européenne. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Nous voyons une administration qui se trouve plus à l'aise avec des pays de l'Europe centrale et orientale qui sont plus pro-américains, plus hostiles à la Russie, qui accueillent des soldats américains, etc. Mais je crois que l'administration cherche maintenant à une Europe forte sur certaines questions, comme dans les opérations militaires, les dépenses militaires à l'OTAN, mais dans un autre sens, avec le corps nucléaire, ils cherchent à briser la solidarité européenne.
Célia Belin.
Je ne pense pas qu'ils cherchent à affaiblir l'Europe, mais il semblerait bien qu'ils cherchent à affaiblir l'Union européenne, ce qui n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, il l'a dit, l'Union européenne est notre ennemi. Il parlait des questions commerciales, mais il l'a dit à plusieurs reprises, l'Union européenne est pire que la Chine. Et donc, on l'a entendu, on sait qu'il a dit à Emmanuel Macron que la France devrait quitter l'Union européenne. Il a dit ça en privé, mais tout de même, c'est un message qu'il a fait passer. Il a applaudi, évidemment, le Brexit. Et aujourd'hui, l'ambassadeur américain à Berlin joue un rôle pratiquement d'opposant politique face à la chancelière. Il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser aujourd'hui que l'administration Trump est heureuse des nationalismes américains, européens, du retour du nationalisme en Europe, pour peut-être reprendre le contrôle à Bruxelles. Bruxelles qui voit comme cette espèce d'énorme bureaucratie tentaculaire, non démocratique, et qui finalement oppresse les peuples européens, et sur lequel une vision très Steve Bannon, sur lequel il faudrait reprendre le contrôle. Ça, aujourd'hui, c'est encore une réalité, et du coup, ça rend le partenariat entre Emmanuel Macron et Donald Trump compliqué par le fait que l'un est très pro-Union européenne et l'autre est devenu franchement anti.
Mais est-ce que réellement Steve Bannon est une sorte de sous-marin qui ensuite appelle Trump en lui disant voilà où on en est, voilà où ils en sont, voilà ce qui se passe, ou est-ce que vraiment on est dans deux mondes qui aujourd'hui sont très séparés?
Je ne crois pas qu'il y ait de coordination entre Steve Bannon et Donald Trump. Il est tombé en disgrâce depuis un moment. Simplement, c'est l'avant-poste. Steve Bannon, c'est l'avant-poste de l'extrême droite américaine. Il fait monter l'extrême droite en Europe. C'est son objectif politique. Il est en train de se rapprocher vraiment des Italiens. On sait qu'il soutient l'extrême droite française également. Et après, il se trouve que ça ne dessert pas forcément les intérêts de Donald Trump. Je ne crois pas qu'il y ait de coordination.
Jeff Lightfoot, comment par exemple est perçu ici, ou est-ce qu'on en rit en disant mais de toute façon ils n'y arriveront jamais, ou est-ce qu'on regarde avec intérêt le fait que on cherche en Europe à contourner l'interdiction désormais de commercer avec l'Iran en trouvant des substituts pour pouvoir continuer à travailler? Est-ce que vu d'ici, on se dit mais de toute façon ça ne marchera jamais, ils n'arriveront pas à s'entendre, on ne trouvera pas ces moyens de substitution, ou est-ce qu'au contraire on regarde en se disant il faut se méfier de ces Européens, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire?
Je dirais à court terme, on se méfie que les Européens puissent trouver l'unité et la capacité à trouver un système qui évade les sanctions américaines. Mais à moyen et à long terme, il y a une crainte que les États-Unis utilisent trop souvent les sanctions et cherchent à limiter l'autonomie de certains alliés même, et que peut-être dans l'avenir, les Européens, les Russes, les Chinois, les Turcs et d'autres pays pourraient s'unir pour créer un système peut-être basé sur l'argent chinois pour limiter l'influence du dollar. Et ça serait une grande perte stratégique pour les États-Unis, car cet privilège exorbitant, comme aurait dit le général de Gaulle, est très important à nous, et nous ne devrions pas l'utiliser, sauf pour les intérêts nationaux.
Voilà, mais les Américains n'ont pas d'ennemis, donc des intérêts. Je crois que c'est une phrase signée de Donald Trump aussi, qui résume beaucoup les choses. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci mille fois à vous qui avez appelé, comme d'habitude, très nombreux au travers de l'Atlantique. Pour une fois, merci à Mélissa Delman, merci à Fabrice Legge, merci à François Rivellon, merci à Pierre Quintard et Grégory Philippe. Vous allez pouvoir dormir, mais pas tout de suite. Allez, portez-vous bien.